Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau de l'émission Notre Bien Commun, Stéphano Bugeaud. Et notre invité aujourd'hui est le père Bertrand Cormier, curé de la Bastide Murat, qui vient nous parler du dialogue interreligieux. Bonjour père Bertrand.
Bonjour Stéphane.
Donc père Bertrand, entrons dans le vif du sujet de cette dernière émission sur le cycle Liberté religieuse. Le dialogue interreligieux dans la doctrine sociale de l'Église, à notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre divers peuples se multiplient, je suis en fait en train de citer la déclaration Nostra Aetate, l'Église examine plus attentivement quelles sont les relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes et aussi entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Alors cette déclaration Nostra Aetate, le court extrait que je viens de lire, dans quel contexte a-t-elle lieu? Expliquez-nous.
Alors nous sommes donc dans les années 60, la guerre n'est pas si loin que ça, la Seconde Guerre mondiale, comme tout le monde le sait. Il y a un autre contexte politique très très grave, c'est la guerre froide, il y a aussi l'affaire des fusées à Cuba. La Shoah, le drame de la Shoah a été véritablement l'événement majeur qui va pousser le cardinal Béat à travailler sur cette question. Il fait partie de ces ministres de l'Église qui sont touchés par ça et qui se disent « Tiens, on va dialoguer avec les Juifs ». Non, ça a commencé comme ça dans les années 50 et l'Église lorsqu'en 59 le pape Jean XXIII va ouvrir lancer les travaux préparatoires, il va demander au cardinal Béat de travailler un document qui pourrait être soumis au vote des évêques sur la question. Donc on est vraiment dans le dialogue avec les Juifs, ce qui n'est pas rien. Et puis, je passe bien sûr les détails, mais on va se retrouver à un moment donné avec le dialogue avec les autres, pas simplement les Juifs, mais évidemment les musulmans, même si à l'époque, dans les années 60, on en parlait beaucoup moins qu'à partir des années 70, avec les chocs pétroliers successifs, et puis l'apparition, bien sûr, des différents terrorismes, notamment le terrorisme lié à l'islam, soi-disant d'ailleurs, on en reparlera plus loin. Et puis, donc, oui, pardon.
Oui, le mot dialogue n'était pas un mot si courant que ça dans les textes du magistère. Et le fait de dialoguer avec les autres religions, est-ce que ça remet en cause l'universalité de l'Église et de la vérité qu'elle porte?
Alors, il y a un document majeur, parce que dans le Concile, il y a quatre documents majeurs, et puis après des documents moins importants. Nostra Aetate en latin, c'est le début du document, eh bien, est un document qui est considéré comme moins important, mais qui finalement fera parler beaucoup de lui. Il y a un document majeur qui s'appelle l'Église dans le monde de ce temps. En latin, on le dit Gaudium et Spes, les joies et les espoirs. Et à l'époque, effectivement, on a besoin, les évêques sentent le besoin, suite, je le répète, à la guerre et à la Shoah et à toutes les guerres, et à une mondialisation galopante, de dire ce passage-là, parmi les principaux aspects du monde d'aujourd'hui, il faut compter la multiplication des relations entre les hommes, que les progrès techniques actuels contribuent largement à développer. Toutefois, le dialogue fraternel des hommes ne trouve pas son achèvement à ce niveau, mais plus profondément dans la communauté des personnes. Numéro 23, paragraphe 1.
Oui, paragraphe 1.
Nous voici donc invités au dialogue humain et non pas un dialogue économique. On est invité à une rencontre non seulement interpersonnelle avec son voisin, ça c'est Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais on est invité aussi à un dialogue entre communautés. Parce que des blocs se forment à ce moment-là. Il n'y a pas que les blocs de la guerre froide de l'Est et l'Ouest, mais il y a aussi des blocs communautaristes et communautaires, les blocs religieux et d'autres blocs, les nations, et tant d'autres courants qui naissent dans cette mondialisation et qui apparaissent au grand jour. Et donc, oui, la question est importante pour les évêques à l'époque de savoir si dialoguer avec notre religion, que ce soit les juifs ou les musulmans, pour parler des religions dites monothéistes, eh bien, si c'est pas un déficit pour nous, hein, de notre foi. Et alors, il y a cette insistance des évêques sur ces rencontres-là. Hein. Par exemple, au numéro 1 de notre traité, tous les peuples forment une seule communauté. Un peu plus loin, les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine. Donc c'est bien la question de l'humain qui est importante. Il s'agit d'abord de savoir si on peut vivre ensemble sur cette terre. Il ne s'agit pas de savoir si tout le monde va être catholique. Le pape Jean-Paul II le dira lui-même, le monde ne sera jamais totalement catholique. Ni même chrétien. Donc c'est quand même une prise de conscience très importante de l'Église à l'époque. Au numéro 3 du même document Nostra Aetate, l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique. Même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans. Donc on voit que ce dialogue non seulement est nécessaire, mais en plus il va devenir vital si on veut vivre ensemble. Donc ça ne remet pas en question, hein, par rapport à la question que tu poses, Stéphane, l'universalité de l'Église, ça pose la question de l'universalité de l'homme, sa capacité à vivre sur une même planète où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on réalise que tout se sait très vite, que tout circule très vite et que le monde entier finalement prend conscience de lui-même. Et que donc les religions sont invitées à y travailler. Et on verra un peu plus loin que même le pape François dit que c'est la mission des religions. Donc non seulement ça ne met pas en question l'universalité de l'Église, mais ça la met en lumière.
Et il me semble que la nature même de notre vie chrétienne, qui est, nous sommes dans une religion de la parole et de l'écoute, le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair, évidemment, elle se vit dans le dialogue. Ça serait un peu contradictoire de s'interdire de dialoguer avec les d'autres personnes alors que nous sommes une religion fondamentalement de la parole et de l'écoute.
Voilà donc la vocation de l'Église dans le monde aujourd'hui, servir l'humanité dont les chrétiens croient qu'elle a sa source dans le Verbe de Dieu, nous disent les évêques de France dans un document épiscopal numéro 5, page 23, et puis le pape Paul VI en 1967, l'Église est experte en l'humanité. La base même de notre foi chrétienne, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, ça veut dire il est lui-même dialogue. Et que le fond, c'est quand même qu'on veut annoncer l'évangile, on veut annoncer la bonne nouvelle, je le veux, mais on ne l'annonce pas en dehors du dialogue, on ne l'annonce pas de force.
Alors nous avons réfléchi un petit peu sur la situation dans le monde, et vous avez cité la situation aussi en France avec cet extrait du document épiscopal. Maintenant, Père Bertrand, j'ai envie de vous demander comment se vit le dialogue interreligieux dans notre diocèse. Monseigneur Laurent Camiade a créé une commission de dialogue avec les musulmans. Alors, pourquoi a-t-il créé cette commission ?
Alors, je lui en ai parlé. J'avoue que c'était un peu une de mes questions, vu ce qui se passe ces dernières années. Personnellement, en 1993, lorsque j'étais encore séminariste, je suis parti en coopération militaire. Car pour ceux qui sont nés avant 79, sachez qu'il existait à l'époque le service militaire. Et donc j'ai préféré partir en Tunisie, enfin en tout cas avec un organisme catholique. Et donc j'ai vécu 2 ans dans ce pays à 99,9% musulmans. Putain, c'est quand même voilà, il n'y a pas tant de pays que ça qui peuvent dire qu'il n'y a pas de catholiques autochtones en Tunisie. Il y en a très 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 peu, sinon quelques couples mixtes, hein, donc souvent des femmes européennes ou en tout cas chrétiennes et qui sont mariées à des Tunisiens musulmans. Et puis après, je me suis formé au retour à l'Institut catholique de Toulouse en ce qu'on appelle en islamologie et un petit peu aussi sur le Coran. Il s'agissait donc de pouvoir entrer en dialogue avec les musulmans. Et j'ai vu que les amitiés que je me suis faites en Tunisie m'ont permis de comprendre qu'effectivement, tout commençait par la relation interpersonnelle. Hein, avant de pouvoir dialoguer entre communautés, surtout là, avec toute l'histoire qu'on a, eh bien, il fallait commencer à pouvoir dialoguer entre personnes. Permettez-moi de citer le père Monseigneur Michel Sentier en 2009, responsable national donc du dialogue avec les musulmans à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus lui, c'est Monseigneur Dubost. L'Évangile nous demande l'exigence de l'amour vis-à-vis des étrangers, des pauvres et vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous. Plus loin, il nous invite à poser non pas un regard de peur sur les musulmans, mais au contraire un regard d'estime. Et il dit lui-même que ce regard de peur est lié à la méconnaissance et à tout ce qui se passe, bien sûr, en ce moment, et aux préjugés mutuels qu'il y a entre nous. Et il nous invite à les réduire en vivant des rapports de confiance dans la vérité. Et enfin, il nous dit aussi de poser des questions ouvertes et non pas des questions fermées. Pourquoi les femmes portent le voile islamique? C'est une question fermée. Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Alors, au niveau du diocèse, puisque c'est la question que tu me poses, il n'y a pas encore d'équipe diocésaine, mais j'ai trouvé des personnes qui seraient aptes à y rentrer, qui ont envie d'y rentrer. Donc d'ici quelques semaines, je pourrais avoir une équipe déjà où on pourra travailler. Monseigneur Camian m'a posé juste une condition, il m'a dit il faudrait qu'il y en ait une au moins qui soit jeune, une personne jeune, et j'ai trouvé un jeune homme de moins de 30 ans, non de 30 ans, qui serait d'accord pour en faire partie.
J'en profite aussi pour parler du fait qu'il y a bientôt le 21 mai un hommage aux moines de Tibérine, et vous savez que Christian de Chergé est d'origine de l'Authoise, de Saint-Michel de Bagnères, et il avait voulu, en rejoignant les moines de Tibérine, être une prière chrétienne au milieu de la prière musulmane, voilà, dans cette posture justement de dialogue avec le monde musulman. Stéphane Aubugeaud, nous poursuivons cette émission sur le dialogue interreligieux avec le père Bertrand Cormier, qui vient de nous faire part de son expérience personnelle. Vous avez reçu une mission de Mgr Camiade. Quelles sont les perspectives du dialogue interreligieux au sein du diocèse du Lot?
Alors, Mgr Camiade a confié à cette commission deux missions. La première, c'est de former les catholiques, justement, parce qu'on l'a vu déjà tout à l'heure, les papes successifs et les évêques nous disent que le dialogue il se fait en étant enraciné dans sa propre foi. Donc en quoi dans notre foi il y a du dialogue, en quoi notre foi nous invite au dialogue. Donc formation des catholiques, et puis rencontre des musulmans, évidemment. C'est quand même ça aussi qui est important, parce qu'on ne peut pas se contenter de parler des musulmans, il faut aussi parler aux musulmans. Ce qui dit dialogue avec eux, donc forcément il faut aller à leur rencontre. Alors premier volet, donc les formations. Alors pourquoi les formations? Eh bien parce que notre regard est souvent pollué sur les musulmans. D'abord bien sûr évidemment par les terroristes qui osent parler d'islam alors qu'ils font du terrorisme. C'est même pas une guerre, hein, c'est pire que ça, c'est du terrorisme et c'est l'horreur, c'est tout ce que vous voudrez. Donc bien sûr beaucoup se posent la question, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à puiser dans la religion musulmane des raisons de leur terrorisme? Donc il y a tout un travail à faire pour essayer d'expliquer ça. Il y a des explications, mais là ça serait trop long à expliquer. Il y a des explications évidemment pour ça. Voilà, ça c'est un premier aspect. Et puis il y a aussi le comportement de certains musulmans. C'est vrai pour n'importe quel autre groupe. Hein, quand quelques membres se comportent mal, eh bien c'est tout le groupe qui en pâtit dans son image. Au point qu'un sondage du Figaro datant du 29 avril 2016 dit que 63% des Français estiment que l'influence et la visibilité de l'islam sont trop importantes en France. Et même chiffre pour le port du voile, enfin contre le port du voile ou du foulard intégral, du foulard islamique, pardon. Et ils pensent, ces Français qui ont été interrogés, que 67% des musulmans, non, 67% de ceux qui sont interrogés pensent que les musulmans refusent de s'intégrer à la société. Alors, comment former aussi les catholiques? Bon, après, c'est des idées, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose, attendant de former une équipe. Donc, à travers des conférences, hein, les contacts que j'ai quelques contacts, ça pourrait être intéressant. Tu as parlé de Chergé, il y a Hubert de Chergé, frère de Christian de Chergé, qui travaille beaucoup à ça à Paris, et aussi dans la région. Bien sûr, une page internet qui pourrait aider, et puis des petites formations sur une demi-journée, Voilà, avec des thèmes comme pourquoi dialoguer avec d'autres religions, qu'est-ce que l'islam de manière très large, qu'est-ce que l'islam en France, parce que c'est aussi une grosse question. Beaucoup disent mais pourquoi parle-t-on de l'islam en France, l'islam n'est pas compatible avec la République, avec la démocratie ou que sais-je. Voilà, donc ce sont des questions auxquelles il faudra bien essayer de donner des éléments de réponse aux chrétiens.
Merci Père Bertrand. Alors, je reviens à l'idée que certains pensent que la formulation en dogme de la foi chrétienne rend difficile le dialogue. Cependant, comme je l'ai dit, notre religion est basée sur le verbe, la parole fait chair. Et Benoît XVI notait que le fait que Dieu se fasse chair, c'est un abaissement de Dieu. Et il disait que cet abaissement de Dieu est le lieu où les religions peuvent se rapprocher sans prétention de domination. Ceci nous invite à une humilité réciproque, et il existe une spiritualité du dialogue dont vous allez maintenant nous parler, Père Bertrand.
Très concrètement et surtout très proche, il y a quelques jours, le pape François est parti en Égypte pour aller à la rencontre non seulement, bien sûr, en premier des coptes catholiques, des chrétiens, qui représenteraient à peu près 8 à 10% de la population, et puis aussi rencontrer le grand imam de l'université musulmane sunnite, les sunnites représentant à peu près 60% des musulmans dans le monde. Donc c'est quelqu'un qui a un gros poids intellectuel, hein. Je dis bien intellectuel, mais c'est important. Et le pape disait, juste un extrait, « Dieu n'apprécie que la foi professée par la vie, parce que l'unique extrémisme admis pour les croyants, c'est celui de la charité. Voilà. » Ce même pape François, il y a c'est pas très longtemps, disait à Bakou, qui est la capitale de l'Azerbaïdjan, comme tout le monde sait, et non, en fait, c'est pas vrai. Je l'ai découvert en même temps que j'ai cherché cela. Le pape disait « Nous rencontrer dans l'amitié fraternelle en ce lieu de prière, donc dans la grande mosquée de cette ville du Caucase, est un grand signe, un signe qui manifeste cette harmonie que les religions peuvent construire ensemble, à partir de relations personnelles et de la bonne volonté des responsables. » Il faut les deux. Il ne faut pas simplement qu'il y ait la tête, mais il faut aussi qu'il y ait le corps qui participe à ce dialogue. Non pas, dit le pape, dans l'opposition, mais dans la collaboration. Ça, c'est assez nouveau aussi. C'est pas simplement chacun chez soi. De temps en temps, on se rencontre pour dialoguer, on est content. Comme si, deux personnes qui se connaissent à peine faisaient comme ça. Bon, ben, très bien. Mais il va plus loin. Il dit même, il parle de fraternité, il parle de partage. Et il dit, s'ouvrir aux autres n'appauvrit pas, mais enrichit. Voilà, toujours dans le respect, et là c'est important aussi, des dynamiques historiques, des cultures et des traditions religieuses, bien sûr. Il s'agit nullement, comme dit le pape, de syncrétisme, c'est-à-dire de mélange conciliant, ni même d'ouverture diplomatique, il dit oui à tout pour éviter les problèmes. Non, il s'agit au contraire, quand on est ami, quand on veut être ami, quand on veut être frère, quand on veut participer à la construction de l'humanité, comme je le disais au début, là, en citant le Concile Vatican II, eh bien, il ne faut pas se contenter simplement de ce dialogue, cette bienséance, cette bonne distance entre nous, mais une construction ensemble, non pas bien sûr en termes de religion, mais en termes de paix, de justice et de fraternité universelle, tout ce qui construit l'humanité véritablement.
C'est l'enjeu qu'a rappelé Nostra Aetate, qu'a rappelé le pape, construire la paix. Alors, pour ce qui est de la spiritualité maintenant.
Je trouve qu'il y a le cardinal Thorens, qui est président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, dit « On ne dit pas Dieu tout seul, on le dit avec les autres. » Voilà. Mais dire Dieu, mais c'est paix, c'est justice, c'est amour, c'est tout ça. Bon. Alors, l'Église, à travers son histoire, a construit une spiritualité du dialogue. C'est pas d'aujourd'hui, pensons à Saint François qui est allé voir ce fameux imam là, en Égypte à l'époque. Bon, alors d'abord il y a quelques principes de la spiritualité. La spiritualité c'est l'Esprit Saint qui nous inspire. Hein. Et lorsqu'on désire aller à la rencontre de l'autre, il faut d'abord avoir le goût de cette rencontre. C'est le premier principe. Deuxième principe, il faut pas avoir peur. pas avoir peur de l'aventure, de la nouveauté, du risque. Quand je vais vers quelqu'un que je ne connais pas, forcément, il va me déranger, me bousculer, parce qu'il y a des choses qui vont me déplaire dans ce qu'il va me dire. Est-ce que je suis prêt à dialoguer quand même, à aller jusque-là, finalement, à me laisser atteindre par la parole de l'autre différent? Un troisième principe de la spiritualité, c'est l'hospitalité partagée. Où il s'agit pas simplement d'aller vers l'autre, mais de le laisser venir à moi. Et véritablement de l'accueillir tel qu'il est. Quelques règles du bien vivre, du vivre ensemble, c'est une expression actuelle, le vivre ensemble. Être à l'écoute, être enraciné dans sa propre foi, ne pas chercher à convertir l'autre, ne pas parler à la place de l'autre, avoir un rapport sain à la mémoire, et vivre dans la patience et l'espérance. Voilà, ça c'est pour quelques principes de spiritualité, du dialogue, qui peuvent nous aider et nous conforter dans ce mouvement que certains veulent faire d'ailleurs, d'aller vers les musulmans. Alors ça c'est pour la spiritualité. Il y a aussi une réalité du terrain. Je suis allé dans une revue qui s'appelle En Dialogue, aller voir un petit peu un témoignage d'un prêtre en banlieue, où il y a des musulmans. Et alors, il part de quatre repères reçus de toujours ce document de Vatican II, qu'on appelle en latin Nostra Aetate. Partir de la condition humaine, des énigmes de la condition humaine, les grandes questions de la condition humaine. Qu'est-ce que l'homme fait sur Terre? Pourquoi les hommes sont différents? Et pourquoi il y a des guerres? Pourquoi on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes, etc. Ensuite, il y a un autre repère important dans ce document de Vatican II, lutter contre toute discrimination ou vexation. Si on considère les autres comme inférieurs à nous, comment voulez-vous qu'on entre en dialogue avec eux? Si on n'est pas au même niveau, pensons à Jean 23, qui lorsqu'il a accueilli, alors c'était un chrétien certes, au Concile Vatican II, un patriarche orthodoxe, il est descendu de son trône, parce qu'à l'époque, les papes étaient sur des trônes, enfin, ils étaient sur une marche un peu haute. Pensons au pape François actuellement, qui n'arrête pas de parler de fraternité et qui veut montrer que c'est pas parce qu'il porte un vêtement blanc avec une calotte blanche et qu'il s'appelle le pape, qu'il est au-dessus des autres, bien au contraire. Voilà, donc ça c'est un deuxième principe très important. Un troisième repère, il faut s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle. Il s'agit pas simplement de vouloir dialoguer, mais il s'agit de se comprendre. Et enfin, ne jamais oublier quand même que nous sommes invités à témoigner, que Jésus est la voie, la vérité et la vie, les trois V. Donc ça aide aussi sur le terrain. Soyez toujours prêt à rendre compte de votre espérance. Je me souviens d'une émission un jour qui était sur tu as 10 minutes pour rendre compte de ton espérance. Et quand on va, je l'ai fait ça, on va annoncer l'évangile dans la rue, c'est super de faire ça, parfois t'as pas 10 minutes, t'as 10 secondes. Et donc en 10 secondes, tu poses la question à l'autre, est-ce que tu crois en Dieu, est-ce que tu crois en Jésus, voilà, donc ne jamais oublier qu'au fond, celui qui nous habite profondément est le Verbe de Dieu, la parole, il nous invite à parler, il nous invite à entrer en dialogue, et ce dialogue, il est pour dire Jésus est la voie, la vérité et la vie. Alors si c'est la voie, tout à l'heure je parlais de patience et d'espérance, je vais marcher avec mon frère, qu'il soit juif, musulman, athée ou qu'importe, je vais marcher à ses côtés comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs, même si je tourne le dos à Jérusalem, symbolique c'est ça, je tourne le dos à l'espérance, à la résurrection du Christ, à la vie, à la lumière, Jésus le fait, il marche jusqu'à temps qu'ils vont le reconnaître, qu'ils puissent vraiment, tous ces gens-là, vers qui on marchera, qu'ils puissent non seulement accepter notre présence, le dialogue, mais qu'ils puissent dans ce dialogue rencontrer le Christ. Alors pas forcément le Christ d'un point de vue identitaire, parce qu'ils sont quand même dans ce refus-là, d'un Jésus fils de Dieu, faut pas non plus, mais ils sont quand même... invité à rencontrer le Christ à travers la paix, la justice, la charité fraternelle.
Merci beaucoup, Père Bertrand, de nous avoir expliqué cette spiritualité du dialogue et les horizons qu'elle ouvre. Nous allons basculer bientôt dans le cycle Église et laïcité, qui a été d'ailleurs bien préparé par ce cycle sur la liberté religieuse. Et donc je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de notre cycle d'émissions sur le bien commun.